Donc Jeanne Sautière, vous êtes ici avec nous pour parler de Tours et détours en bibliothèque, Carnet de voyage, une publication des presses de l'EMCI, mais publication un petit peu particulière parce que hors collection, qui réunit à la fois des textes de littérature et de la photographie. Je dirais quelques mots de plus tout à l'heure sur comment vous en êtes venu, enfin quelle a été la commande, puisqu'il s'agit d'une commande. Mais avant ça, je voudrais vous présenter par vos trois publications que vous avez produites aux éditions Verticales. Donc en 2003, un premier texte, Fragmentation d'un lieu commun, qui regroupe 100 textes brefs, 100 fragments, autour de votre travail d'éducatrice pénitentiaire. Avec l'idée, c'est ce que vous écrivez, de montrer la prison comme un lieu commun incarné. Donc c'est à la fois un texte nourri d'une expérience professionnelle, sans être un témoignage, puisque c'est un texte littéraire avec une écriture très très dense. Le deuxième texte que vous avez publié aux éditions Verticales, je ne l'ai pas là, je ne vais pas vous le montrer, s'appelle « Nulle part », qui est le terme employé par les médecins pour qualifier une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Et après avoir un peu examiné, on va dire, mis en littérature le corps social, vous mettez là en littérature le corps plus intime. Et puis, cette année, toujours aux éditions Verticales, « Dressing », avec une écriture quand même un peu proche de Fragmentation d'un lieu commun, dans la mesure où il s'agit de chapitres courts, qui sont donc assez proches du fragment. Mais là, il s'agit plutôt d'un récit de vie, me semble, à partir de l'examen de la garde-robe de la narratrice. Et les vêtements dans ce texte permettent, c'est ce que vous dites, des allers-retours du visible au caché, de la matière au commentaire. Donc en quelque sorte, il donne à toucher, à voir, à entendre à la fois les histoires de famille, mais aussi l'histoire de la narratrice. Et ça dit quelque chose de son identité, de ses désirs, de ses rencontres, peut-être de ses regrets, mais de ses voyages aussi. Je vais quand même vous prendre le temps de lire quelques lignes. Les habits m'ont aidé à revenir au monde, les écharpes enroulées autour du cou, une buée au ras du nez qui se transforme en gouttelette, les chaussettes épaisses, les bottes et les bottines, parfois les chaussures de marche, les gros pulls et les manteaux. Plus j'arrivais à prendre pied et à habiter cette ville, mieux je choisissais mes manteaux. Habit, habiter, habitus, être là, vivre ici, et avoir un manteau. Je crois les avoir tous en mémoire, sans doute parce que leur achat était un geste lourd dans mon enfance. Un investissement presque immobilier, non seulement du fait de son prix élevé, mais parce que le manteau est bien une sorte de maison, un enclos, une hutte contre l'effroi de nos hivers, mais qui permet de sortir, d'être dehors, de devenir une passante. Le manteau me rend passante dans les rues froides de la ville. Voilà, donc c'est un passage, j'aurais pu le dire pour commencer, qui est écrit après votre retour du Cambodge, en France, donc... avec une différence de température qui fait que vous aviez du mal à vous réchauffer. Voilà. Donc ces voyages, ils sont nombreux, je crois, importants dans votre vie, puisque vous êtes née en Iran, vous avez vécu au Cambodge, en Algérie, au Liban, à Lyon et à Paris, puis j'en oublie sans doute. Mais sans beaucoup plus de transition, dans Tours et détours en bibliothèque, c'est une autre sorte de voyage qu'on vous a invité, un voyage en bibliothèque. Et vous aviez choisi, pour écrire ce texte, qui demandait d'aller à la rencontre d'un établissement, vous aviez choisi la bibliothèque Marguerite Yourcenar à Paris. Voilà, je crois que vous avez prévu de nous en lire une partie, donc je vous laisse la parole.
Merci beaucoup pour votre présentation. Je ne parle pas très fort. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Vous me le dites, sinon. Donc, Marguerite Yourcenar, entre parenthèses. Si elle avait gardé son nom de naissance, ça aurait été un peu compliqué. Marguerite, Antoinette, Jeanne, Marie, Ghislaine, Kleinewerk de Créancourt, c'est long. Même lorsqu'on ne garde qu'un des prénoms, Marguerite Kleinewerk de Créancourt, c'est long. Long comme les histoires nobiliaires, les noms arc-boutés sur les pays, la possession de la terre, de son nom, de son histoire. Corps du Seigneur et terre fusionnée. Comme elle a fait de Crayancourt son nom de Yourcenar, ce que ça fait d'écrire avec un autre nom que le sien. Crayancourt, on pense à Cray, à crayon. C'est cette part de son nom qu'elle a livrée à la transformation en nom d'écrivain. Elle a gardé Marguerite. Elle n'a pas gardé ni cherché à transformer Kleinewerk. Elle n'a pas choisi Antoinette, ni Jeanne, ni Marie, ni Ghislaine. Antoinette Yourcenar, Jeanne Yourcenar, Marie Yourcenar, Ghislaine Yourcenar. Donc, Marguerite Yourcenar forever. On ne peut pas imaginer un temps où on n'y verra plus Yourcenar. Peut-être arrivera-t-il. Peut-être un jour, les immensités qui nous fondent ne nous fondront plus parce que, ici et toujours, place aux vivants. Mais nous ne serons plus là, nous non plus. Jusqu'à ma mort, au moins jusque-là, on lira Marguerite Yourcenar. Peut-être Duras disparaîtra-t-elle avant ou pas de la même façon. Dans la moquerie, le quolibet avec la violence spécifique qu'on met à l'assassinat des femmes qui écrivent. Tandis que Yourcenar mourra comme meurent les langues anciennes, un grand paquebot coulant dans le silence et la lenteur, son air à peine visible. J'aimerais tenir l'idée de faire ce texte sur Marie de Crayancourt ou sur Jeanne Kleinewerk, sur une femme de Flandre, sur une femme pâle dans un velours bleu nuit. Qui choisit le nom des bibliothèques? Pourquoi Marguerite Yourcenar, ici dans le 15e arrondissement de Paris, là, dans la rue d'Alray, ou si je tourne à angle droit, face à la médiathèque, dans la rue Cordon, je tombe, après avoir traversé la rue de la Convention, dans la rue de Kronstadt, où j'ai vécu, sans à aucun moment m'abonner à cette médiathèque qui tout simplement n'existait pas encore, ou d'ailleurs à aucune autre. Je commençais à me constituer ma propre bibliothèque, quittant peu à peu le livre de poche pour m'acheter des livres, des vrais, avec mon salaire et avec cet indiscernement brouillon lié à l'absence relative d'ouvrages de littérature chez mes parents. Pardon. Non, là, rue de Kronstadt, je vivais dans la solitude noire des amours passionnels. J'allais boire des coups dans un bar tenu par un ancien boxeur, me sentant bien dans cet univers d'hommes fanés et marqués, étrangères et donc sans recours à mes malheurs volontaires et adorés. Pas de médiathèque, donc. Mais dans ce studio, boîte bétonnée qui donnait de la claustrophobie à mon chat, nanti d'une baie vitrée occlusive qui n'ouvrait sur aucun extérieur, ce qui allait comme un gant à ma souffrance, ton sur ton, comme on dit, la soulignant et la prolongeant. Là, oui, j'ai acheté et lu Mémoire d'Adrien. J'en suis à peu près sûre, pour avoir trouvé dans les pages du livre réouvert une lettre brève, un brouillon de ma prose accablante à mon amant absolu. Les longs moments de cette écriture, je m'en souviens si parfaitement. La recherche du mot à la mesure de l'excroissance du sentiment. Cette quête fébrile d'où il ne sortait aucun apaisement et qui me conduisait à aller boire des coups au bar du vieux boxeur. Là, au milieu des hommes vaincus, je reprenais un peu de force, suffisamment pour rentrer chez moi. J'aurais été mieux inspirée de placer la lettre, ou plutôt son avorton, le brouillon, dans feu, qui l'eût peut-être contenu avec plus de prévenance. Car ça, ces mots de petite femme amoureuse, dans la mémoire d'Adrien, non, ça ne se peut pas. Je mesure l'indécence, je sens le glacis de la misogynie yousseliardienne me plaquer net au sol comme au rugby, plof. Me plaquer en tant qu'amoureuse, pour la faiblesse de ma constitution face à l'immensité de mon sentiment, et en tant qu'auteur pour le rabattement de l'écriture à une œuvre au blanc, si j'ose, défaite par le noir non assumé. La nuit était tombée sans qu'il pût savoir si c'était en lui ou dans la chambre. Tout était nuit. Les ténèbres s'écartaient pour faire place à d'autres, abîme sur abîme. C'est un extrait de l'œuvre noire, vous l'avez peut-être reconnu. Voyez l'écart. Comme cette Marguerite-là est loin de mon pauvre moi, si faible, si pathétiquement féminin, pléonasme, si parfaitement renversée par la jouissance, cul par-dessus tête, enfin, dans le grand appartement de l'homme de Montparnasse, qu'il fallait bien tout ce malheur pour ne pas folir, renversée sur le grand lit et dépouillée comme un lapreau, baisée par l'amant, toute la lumière de ma vie, l'éblouissement sexuel, noir absolu, puis retour à la baie vitrée, aux hommes fatigués du bar du boxeur, il faut dire aussi que je travaillais en prison, grise pleine des hommes vaincus. J'aurais dû lire Duras. Mais Adrien, un empereur, la possession non plus de la terre mais du monde. Duras m'aurait montré l'empereur de la jouissance des femmes, l'amant si on veut, et la douleur qui s'ensuit. Donc, on l'appelle la médiathèque Yourcenar, qui et pourquoi. Je suis donc venue la voir. Elle est belle, hospitalière, grande, si parfaitement au service des lecteurs, auditeurs, amateurs de vidéos qui la traversent. Moi, qui suis venue le sandwich à la main et qui ai mangé devant l'entrée, réalise que je pouvais tout à fait le faire dans un espace jouxtant le patio où mon appareil photo peine à garder trace des fleurs si légères de quatre jeunes prunus, fleurs inconscientes de cette fin janvier qui garde ses griffes d'hiver en réserve. Au rayon de Marguerite Yourcenar, j'ouvre Souvenir pieux, intrigué par le titre. Je m'apprête à emprunter ce livre, ce que je ne fais pas. Partant plutôt avec Petit conte de printemps de Soseki, décidé immédiatement par une phrase de quatrième de couverture, je vais aborder des sujets si ténus que je dois bien être le seul à m'y intéresser. Sous le soleil d'hiver, qui ce jour-là est si doux, si vulnérable, il faudrait l'inconscience des prunus pour penser l'hiver fini, qu'il me faut absolument aller lire au parc Brassens, après avoir logé mon ancien logement et observé sa façade triste, immuable, tandis qu'il me semble que tout s'est bellement patiné autour jusqu'à l'existence d'un bar à jus à l'entrée de la rue de Kronstadt, je pousse vers le bar du boxeur qui s'appelle en réalité Aux Sportifs Réunis. Et je demeure stupéfaite du décor qui m'accueille, un décor, oui, comme dans un film noir, rideau tiré sur une salle pittoresque, mythique, comme indiqué sur la vitrine, dont j'entrevois à peine les anciennes photos. Décor dans le jus, plus vrai que vrai, sans doute ce que Barthes aurait appelé l'effet de réel. Je n'ai pas osé rentrer intimidée par cette atmosphère plus que je ne l'avais été par le fait d'entrer dans un bar d'hommes à l'époque, où mon arrivée provoquait toujours un petit moment de silence et d'indécision. Je commandais un cognac, j'aurais dû demander un rhum. J'étais reçue avec une affection distante, la seule que je pouvais supporter. J'aimais la boxe. Le boxeur s'appelait Vachelac. Il est mort d'une crise cardiaque à son comptoir l'hiver 89. J'avais quitté le quartier depuis 4 ans. Je reviens chez Marguerite Y un samedi de février après quelques semaines de glaciation ternaire, voir si les prunus ont survécu et rapporter mon Soseki. Grisée par cette joie que j'éprouverai toujours à l'idée qu'on me prête des livres et qu'on le fasse avec autant de prévenance et plus fort encore dans tous les arrondissements de Paris, même les riches, à charge pour moi de rapporter mon ouvrage, donc tant qu'à faire avec ma gaieté, autant en rajouter et prendre le bus, traverser tout Paris, gris comme il se doit, du nord-est au sud-ouest, en pensant à Calais qui a lui en bus également, du sud à l'ouest. J'arrive un peu tard pour flâner, c'est samedi, il y a beaucoup de monde. Je prends à la hâte, à la recherche de Shanghai, d'Annie Wang, pour le titre, pour son nom, pour ses mots en quatrième de couverture. Les 100 années de ce siècle sont passées pour Shanghai comme un rêve, laissant des bribes de cauchemars et de belles illusions. Derrière nous, le fleuve poursuit sa course vers l'est. Saisir ce qui vient, surtout depuis quelque temps, de cet Orient extrême qui écarte absolument tout sens critique, tout rattachement à une proximité, tout implicite situationnel, tout exotisme, ce qu'en somme toute littérature doit pouvoir provoquer. Disons que là, le fleuve est plus large pour accéder à cette suspension, cette indécision de la lecture, ce ravissement. Les prunus vont bien, mais je n'en compte que 3. Lorsque je reviens rapporter mon Wang, je marche derrière une ravissante petite personne de 5-6 ans qui se rend également à la médiathèque, plus jolie et fraîche qu'une jonquille, coiffée d'un chapeau rose et jaune, et je me dis que c'est le printemps soi-même que je viens de croiser, sa grâce, sa sève, sa bouleversante moralité. Joie et nostalgie se mêlent aujourd'hui dans mon trajet et mon séjour vers Marguerite Yourcenar, comme fait le printemps, faisant surgir chaud et froid en couches non homogènes, distinctes, nous détachant et nous reliant dans le même mouvement à ce qui fut et ce qui sera, et que peut-être nous connaissons déjà, parce que nous sommes vieux. Le printemps me rend vieille, pensais-je dans le bus qui me ramène, ou dans mon dos, un jeune homme à mèche dont j'aperçois le reflet dans la vitre et dont j'entends très distinctement les larmes et les mots, suppliant son main amoureuse de ne pas le quitter, intense, fébrile. Jeune silhouette en palimpseste des rues animées aujourd'hui et de l'amoureuse de Kronstadt dont j'hésite à regarder le reflet vieilli dans la vitre. En fait, les prunus qui ont conservé quelques fleurs ne sont ni 4 ni 3 mais 6. 3 en triangle dans l'atrium et 3 en ligne sur un côté. Dans le bus qui me ramène à mon est relatif, ma Flandre parisienne, dans cette glissade de la ville livrée au gris qui lui va comme un gant long à une pierreuse, j'applique la fine résine de mes marques anciennes, là où j'ai vécu, aimé, lu, sans aucun discernement jamais, avec ce qui souvent, comme aujourd'hui, justifiait la promenade, aller à la bibliothèque, plaisir de cueilleur, plaisir de promeneur, comme on irait voir la Seine, le bassin de la Villette, ou quoi que ce soit qui justifie qu'on passe la porte de chez soi, heureux et confiant.
Merci, merci. Vous l'avez entendu, le texte de Jeanne Sautière est traversé par la promenade, une déambulation un peu incessante. Et du coup, je me demandais si le choix de cette bibliothèque, c'était pour pouvoir aller dans ce quartier, retrouver peut-être des traces du passé, et si la bibliothèque en elle-même, pour vous, signifiait intrinsèquement cette déambulation, cette promenade, ce déplacement dans l'espace.
Alors, c'est vraiment une curieuse histoire parce que non et oui. Parce que quand je l'ai choisi, je voulais effectivement moi, avoir un rapport physique avec la bibliothèque dans laquelle j'irais, et je voulais pouvoir y revenir régulièrement si je souhaitais y revenir régulièrement. Pour moi, c'était indispensable de pouvoir d'avoir un rapport véritable en tant que lectrice à cette bibliothèque. Donc, j'ai choisi la seule bibliothèque finalement de lecture publique qui était dans Paris. Et par un petit coup de l'inconscient, il se trouve qu'elle était à 30 mètres de là où j'habitais. Ce que j'ai découvert avec une espèce de stupeur étonnée quand je me suis rendue dans cette médiathèque, qui est au demeurant très, très belle. Je vois que il fallait tourner la tête, suivre cette petite rue, et voilà, j'étais dans mon ancien logement, qui était un logement un peu compliqué, dans une période un peu tumultueuse, et bon. Et je me disais, mais comment ai-je pu passer à côté d'elle ? J'ai passé à côté d'elle parce qu'il n'y avait pas concordance des temps. Au moment où moi j'habitais là, la médiathèque n'existait pas, et au moment forcément où j'y reviens, je n'y habite plus. Mais c'était un des bonheurs de cette commande, c'était de faire des nouages avec ces choses-là.
Il me semble que vous n'avez pas eu de difficulté à entrer dans cette bibliothèque. Alors, je ne sais pas si vous avez perçu cette difficulté-là, que traduisent pas mal d'autres des textes. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est le signe que vous êtes habitué des bibliothèques, ou est-ce que vous l'avez appréhendé différemment ? Je m'interroge là-dessus parce que c'est vrai que les auteurs qu'on a entendus jusqu'à présent, c'est quelque chose qui revient, même quand ils parlent de leur texte. Cette difficulté finalement à entrer.
Alors, je pense que ça vient effectivement de mon histoire avec la bibliothèque, puisqu'elle a commencé en Iran, dans un endroit où il n'y avait pas vraiment une bibliothèque, il y avait une espèce de petit dépôt de livres organisé par des bonnes sœurs. Enfin, je vous dis, c'était le niveau underground de la lecture publique, mais il y avait quand même beaucoup de livres là, il n'y en avait vraiment pas chez moi. Il y a eu un rapport absolument, que je dis dans le texte d'ailleurs, noué avec le livre, mais aussi avec la prévenance avec laquelle on me mettait le livre dans les mains. Et je crois que pour moi, l'œuvre de bibliothèque, c'est une œuvre de prévenance, c'est-à-dire on vous confie des livres. Et ça m'a marqué, mais très très durablement, mais vraiment très durablement. Et je sais que je n'ai pas, alors que j'ai aucune érudition personnelle, je n'ai aucune difficulté à rentrer dans une bibliothèque parce que c'est un endroit où on a cette pratique de me permettre de choisir un livre, de repartir avec, de revenir et de réemprunter, etc. Et je trouve que ça fait comme un manteau, on va sortir la pièce de dressing, un manteau de prévenance autour de soi, et j'ai trouvé ça immédiatement, non pas la prévenance comme une clôture, mais la prévenance comme une ouverture. Et voilà, et ça a noué un rapport au livre dans lequel, effectivement, je ne peux pas me passer d'une bibliothèque. Voilà.
Une question qui va dans le prolongement de celle-là que je me posais à la lecture de votre texte. Vous ne dites pas si finalement vous vous êtes présenté auprès des responsables, des bibliothécaires, ou si vous y êtes allé complètement incognito.
J'y suis allée complètement incognito parce que qu'est-ce que ça aurait signifié pour moi de me présenter? J'aurais cessé d'être une lettrice pour être l'auteur du texte sur la médiathèque. Et je ne voulais pas de ça parce que je n'aurais pas pu écrire. Donc j'y suis allée comme une lectrice. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'idée de ce que je ne faisais pas avant, de rentrer dans différentes médiathèques ou bibliothèques de la ville de Paris. Il y en a quand même quelques-unes. Et de les emprunter, parce que n'importe quelle carte, une fois que vous avez votre carte, vous rentrez et vous empruntez. Et je le fais maintenant dans... Voilà, ça m'a obligé à aller, à revenir, à dans des quartiers. Je trouve ça... vous m'avez offert un véhicule fabuleux. Non, j'abuse maintenant. Et je trouve ça assez étonnant, d'autant plus que là... Il y a un rapport au lieu quand même de la bibliothèque, c'est-à-dire la bibliothèque, elle s'inscrit quand même dans son quartier, elle s'inscrit avec les habitants, c'est pas les mêmes lecteurs quand on rentre dans un endroit ou dans un autre, même si on croise les mêmes ouvrages, c'est pas les mêmes lecteurs, c'est pas, voilà. Et du coup, je trouvais que c'était bien d'y être vraiment, vraiment, vraiment en tant que lectrice et de garder ce fil.
Parce que j'ai trouvé dans votre texte, dans un certain nombre d'ailleurs aussi, mais dans le vôtre en particulier, c'est un rapport, comment je vais dire ça, un peu détourné de la bibliothèque et en tout cas physique.
Oui.
Et d'ailleurs, la lecture que vous avez fait là, remet en mémoire le texte que j'ai lu. Et je trouve que c'est très important pour nos bibliothécaires, ce rapport physique à l'établissement, enfin à la bibliothèque en général. C'est tout ce que j'ai à dire, mais il me semble qu'en fait, l'extrait que vous avez lu là me le conforte encore. Physique, intime, c'est quand même, c'est très intime ce que vous nous avez lu. Et puis, je ne suis pas sûr par contre que... C'est forcément très, comment dire... Oui, non, c'est votre vision de la bibliothèque qui est une très belle vision, voilà, c'est tout.
Mais je crois que c'est intime parce que la lecture est intime.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà, il y a aussi de l'intime, les livres charrient aussi, pas que de l'intimité, mais enfin des sommes de rapports comme ça, et je n'ai pas voulu dans le texte éluder toutes les associations qui sont arrivées du fait de l'installation de cette bibliothèque dans ce quartier, d'une proximité historique ancienne et dépassée, d'un quartier de Paris qui a beaucoup changé, dans lequel il y avait ce bar qui était maintenant un truc à bobo et qui n'était pas du tout ça, mais pas du tout du tout, voilà. Et je trouvais que tout ça se nouait quand même, pas simplement du fait du hasard. Je suis certaine que dans toute autre bibliothèque, on arriverait à tisser des fils comme ceux que j'ai tissés, qui sont noués des rapports que chaque lecteur entretient avec son quartier, le chemin qu'il emprunte pour la bibliothèque, est-ce qu'il va faire ses courses avant, après, enfin je ne sais pas. Il y a 46 000 nouages possibles dans l'intime et dans le rapport à la bibliothèque où on se rend, quoi. Ouais. Vous aviez l'air de dire que c'est un rapport un peu idéalisé.
Non, je trouve ça non, idéalisé, je sais pas. Non. En tout cas, la plupart des textes qui m'ont plu en tant que lecteur, en tout cas, sont des textes d'itinéraire ou d'itinérance, quelque chose comme ça. Et c'est le cas du vôtre, c'est le cas de Baptiste Marais, c'est le cas d'André Raximov, ce sont des textes où...
Sylvie Gracia.
Oui, voilà, enfin bon, je finis toujours par en oublier trop.
Oui, ben...
et je trouve que, en fait, c'est aussi ça, quoi, la bibliothèque. Et c'était pas la commande de Catherine, voilà, n'était pas... qu'est-ce que c'était bien la bibliothèque quand j'étais petit, parce qu'il y avait des intercalaires, des machins et trucs, c'était... notre perception de la bibliothèque, un objet un peu, je sais pas quoi, imaginaire, fantasmé, c'est tout à fait ça.
Oui, et puis c'est vrai que ce parcours, qui est un parcours géographique, physique, il se traduit aussi, s'accompagne quasiment immédiatement dans votre texte d'un parcours littéraire, de Marguerite Yourcenar à Henri Calais. À Sozeki, et puis Annie Wong. Ça rend la relation à la bibliothèque très riche.
Je crois que les livres sont comme ça, c'est-à-dire que on noue avec eux aussi des rapports de cette proximité-là. J'étais surprise d'ailleurs dans Fragmentation, le premier livre qui n'est vraiment pas un livre sur la bibliothèque, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est un livre sur la prison en gros. De voir le nombre de références littéraires qu'il y a dans ce livre, l'air de rien, et je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte, c'est-à-dire au point que le livre est pris dans notre chair, dans notre histoire, on le métabolise, on vit avec lui dans des couches plus ou moins profondes qui réémergent, qui redisparaissent. Et là, je crois que c'est pareil pour la. Pour moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait le livre là et la vie ailleurs. Quoi. C'est tout ça, c'est complètement mêlé. Complètement mêlé. C'est comme ça. C'est...